ensuite, on arrive à un gros sujet. Alors volontairement, on ne l'a pas détaillé ici, on va l'évoquer à l'oral. De toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup de rebonds sur ces thématiques. C'est les frais professionnels et les avantages en nature. On va commencer par le sujet des frais professionnels. Les frais professionnels, je vous rappelle la définition. La définition d'un frais professionnel, c'est un frais qui est engagé par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle. C'est large, très large, d'accord ? Moi, pour moi, quasiment tout rentre dedans, en fait.
Les frais
inhérents
à l'emploi.
Ces frais, on a deux modes d'évaluation. Je rappelle les bases. Hein. On a l'évaluation dite au réel. Et dans ce cas-là, on doit apporter la justification du caractère professionnel de la dépense et le montant de la dépense via la facture ou le ticket de paiement.
Il y a déjà la circonstance de fait. Oui. Est-ce que vous pouvez défrayer ? Est-ce qu'il s'agit bien de frais professionnels ?
Oui, dans la nature professionnelle.
Après, vous apportez la pièce justificative pour être défrayé au réel. Donc, et aussi, vous avez le forfait.
Et ensuite,
avec la présomption jusqu'à hauteur du montant du forfait. Avec une précision du boss qui dit qu'en fait, on doit pouvoir apporter quand même une pièce justificative qui a bien eu utilisation.
Ouais, alors là-dessus.
Alors là, je ne sais pas jusqu'où ça ira,
moi
cette précision.
Plus, mais...
Parce que bon, c'est un peu à l'encontre. De la présomption d'utilisation conforme pour les forfaits qu'on avait jusqu'à présent.
Alors, sur le forfait, déjà, quand même, donc l'indemnisation au forfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à démontrer. On a quand même à démontrer le caractère professionnel de la dépense,
circonstance,
la circonstance de fait qui justifie la dépense. En revanche, on n'a pas à apporter la justificative de paiement, la facture, en réalité.
La facture.
Mais tout ne peut pas être au forfait. Les frais professionnels qui peuvent être indemnisés au forfait, ils sont listés limitativement dans un arrêté de 2002. Et schématiquement, pour une entreprise, les grands frais professionnels au forfait que vous allez appliquer, on va avoir les frais de repas, petits déplacements, les frais de grands déplacements, la mobilité internationale, la mobilité interne à l'entreprise. C'est les quatre grandes typologies de frais qu'on rencontre avec le télétravail, mais... Voilà, les frais liés au télétravail et les indemnités kilométriques que je mets un peu dans une catégorie à part sur lesquelles on reviendra. Sur l'indemnisation au forfait, effectivement, le bulletin officiel de la Sécurité sociale est venu préciser qu'il fallait être en capacité de démontrer la réalité de la dépense. Ça se base sur une lecture même pas strict, j'ai envie de dire, extensive, de l'arrêté de 2002 qui vient définir un frais professionnel. Il faut savoir qu'on a eu une jurisprudence de la Cour de cassation il y a trois mois, un peu hallucinante. C'était une entreprise dans le secteur du BTP qui faisait des indemnités de grands déplacements et qui indemnisait au forfait. Il s'est fait redresser parce qu'il n'apportait pas les pièces justificatives démontrant cette fois-ci, les circonstances de fait autour de la mobilisation de ses frais professionnels. Il conteste et il apporte la justification. Et ensuite, on lui dit « Oui, mais vous ne démontrez pas la réalité des dépenses. Bon, » Pour démontrer la réalité des dépenses, on était sur une indemnité de grand déplacement, de découcher, donc des salariés qui dorment pas chez eux tous les soirs. Il a apporté une série d'attestations sur l'honneur de la part de collaborateurs. La preuve est libre, c'est un début d'élément de preuve. Réponse de l'URSSAF dans le cadre des écritures validées par la Cour d'appel, puis validées par la Cour de cassation, pour justifier, quand bien même on est sur le forfait de la réalité des dépenses, il faut produire les factures d'hôtel. Cette décision de la Cour de cassation, d'accord, elle existe. Bon, c'est un arrêt qui n'a pas été publié, d'accord, qui est fortement contesté, notamment dans le secteur du BTP, d'accord. Il y a beaucoup de lobbying là-dessus. Et là, on essaye au contraire d'utiliser le bulletin officiel de la Sécurité sociale en disant attention, merci de mettre le holà sur cette jurisprudence, parce qu'en gros, vous êtes en train de tuer l'indemnisation forfaitaire. Et dans ce cas-là, nous, c'est pour même vous, votre secteur d'activité, c'est la même chose. C'est un pan d'activité qui va s'arrêter parce que les frais professionnels, c'est quand même au forfait. C'est essentiel dans ce secteur d'activité. Sinon, on peut aller recruter juste 60 personnes pour les gérer, en réalité. Mais ça pose quand même des vraies questions parce qu'il y avait déjà ce petit ajout dans le BOSS. Maintenant, on a cette jurisprudence qui a été rendue sous l'empire antérieur au bulletin officiel de la Sécurité sociale. En fait, moi, je trouve qu'on est en train de détricoter le forfait. Ça va un peu dans la droite ligne de la déduction forfaitaire spécifique. Je vous rappelle que la déduction forfaitaire spécifique, qu'est-ce que c'est ? C'est un mécanisme qui permet, pour des salariés qui engagent beaucoup de frais professionnels, d'abattre leur assiette de cotisation. On fait masse de leur rémunération de base plus des frais professionnels. Sur cette masse globale, on fait un abattement et on calcule les cotisations sur cette base abattue. C'était pour éviter justement tout ce travail de justificatif. Le bulletin officiel de la Sécurité sociale est venu nous dire sur la DFS, en prenant l'appui sur des jurisprudences, il faut que les salariés en situation de DFS, pour qu'on puisse appliquer l'abattement, démontrent qu'il y ait réellement des frais professionnels. Comment je démontre qu'il y a des frais professionnels ? Ben, je démontre via des factures, des déplacements. Donc en fait, depuis à peu près 2 ans, je trouve, 2 ans et demi, on est, je trouve, sur une logique où on vient détricoter le caractère forfaitaire des frais professionnels. Et on est en espèce d'une situation d'entre-deux extrêmement dangereuse pour les entreprises, où plein d'entreprises ne sont pas au réel, très clairement, parce qu'elles ne peuvent pas matériellement être au réel. Et au-delà de ça, c'est parce que la philosophie des frais professionnels dans certains secteurs d'activité s'est construite sur le forfait. Il y a même des pans entiers des frais professionnels. En fait, c'est des secteurs d'activité qui les ont créés, en réalité. Je pense notamment au BTP, au transport routier. Avec ce mode de fonctionnement, si on continue avec ce rythme jurisprudentiel, dans 3 ans, 4 ans, il n'y a plus de forfait. Donc, à mon sens, message que j'aurai, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si on arrête le forfait en réalité ? Ben, si on arrête le forfait, on va passer sur des indemnisations effectivement au réel, avec des politiques de frais drastiques pour faire le suivi dans les entreprises. Et les premiers lésés par tout ça, ça va être les salariés en réalité. Donc, peut-être qu'il y a quelques abus sur certains sujets dans certains secteurs d'activité dans les frais professionnels, mais à force de vouloir passer en totalité au réel, ça va devenir quand même particulièrement, à mon sens, dangereux. Je ne sais pas quel est votre avis, Madame Rezvina.
Non, mais là, oui, on est en train de supprimer cette présomption d'utilisation conformément à son objet, qui était attachée au forfait et qui est quand même une simplicité de gestion dans certains secteurs où c'est complètement ubuesque d'aller demander toutes les pièces justificatives à des salariés travaillant sur chantier, notamment dans le cadre des indemnités de grand déplacement. Là, c'est une facilité de gestion qu'on est en train de remettre en cause.
Du coup, par rapport à une question qu'on nous a reçue, qu'est-ce que vous conseillez du coup à une entreprise qui a des indemnités de grand déplacement, qui utilise le forfait, en termes de justificatif, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui ?
Alors, avant de répondre à la question, moi, je suis pour ne rien changer pour l'instant. Parce que le système, il existe. L'arrêté de 2002, il n'a pas évolué. Et on a des fondements textuels quand même relativement forts pour appuyer les pratiques, et notamment les pratiques évoquées dans cette question. Alors, puisqu'on rentre dedans, on va y aller sur les indemnités de grand déplacement. Le sujet des indemnités de grand déplacement, qui sont mentionnées ici, qu'est-ce que c'est ? Une indemnité de grand déplacement, ce sont des salariés qui sont considérés comme en situation de déplacement, qui doivent être en capacité de démontrer qu'ils sont à plus d'1h30 de leur domicile et à plus de 50 km de leur domicile. Si on répond à ces deux conditions, et c'est là l'énorme point d'interrogation, on est présumé être en situation de grand déplacement. Et dès lors qu'on est présumé être en situation de grand déplacement, eh bien mon employeur, soit il m'indemnise au réel, donc je lui apporte des factures d'hôtel, des factures de restaurant, et il me rembourse au réel, soit il se met dans le cadre des forfaits de l'administration, dont vous m'excuserez, j'ai pas les montants en tête, mais qui varient en fonction de province et IDF, et on peut se mettre dans le cadre de ces plafonds. Sur ce sujet des indemnités de grand déplacement, les grands problèmes qu'on remarque dans le cadre des contrôles URSSAF. Le premier sujet, c'est effectivement cette présomption. Cet énorme point d'interrogation quand on se met dans le forfait, est-ce qu'une URSSAF va venir me dire Très bien, vous êtes dans le forfait, mais démontrez-moi que les frais sont réellement utilisés, qu'il y a réellement des frais qui sont engagés. Parce que le forfait, c'est juste pour vous simplifier, pour ne pas récupérer les justificatifs, mais démontrez-moi la réalité de la dépense. Oui, mais qu'est-ce que je peux vous apporter pour ça ? Ben, une facture, monsieur. Et ça, à mon sens, il faut se battre. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut rester les bras ballants, parce qu'en réalité, dans les entreprises où il y a beaucoup de frais professionnels d'indemnité de grand déplacement, c'est des sujets qui vont exister. Nous, on sort de deux contrôles URSSAF sur des grands groupes du BTP. Un des deux, il a eu cette position de la part des URSSAF. Autant vous dire qu'en termes d'IGD, ça a été extrêmement violent.
Alors, ça peut être venu aussi du fait que, par exemple, dans le bâtiment, vous avez ce qu'on appelle les contrats à durée déterminée chantier, mmh, avec la notion habituelle du lieu de travail. C'est-à-dire que vous embauchez un salarié pour faire une mission à tel endroit, eh bien, il n'est pas censé être en déplacement puisqu'on l'a embauché pour le dit chantier. Donc, par rapport à sa mission, son lieu habituel de travail qu'on lui fixe, eh bien, à lui de se rapprocher. Alors, il y aura effectivement application de quelques tolérances en admettant les trois premiers mois en situation de déplacement, comme on le fait pour les entreprises d'ingénierie, les S2I, mais sociétés de portage également, sociétés d'intérim. Mais voilà, c'est toutes ces problématiques de lieu habituel de travail, c'est-à-dire le salarié recruté pour la mission même, pour ce chantier, si ce chantier perdure dans la durée. Et c'est là, je dirais, toute la problématique attachée à la notion de déplacement. Est-ce qu'il est vraiment en déplacement, oui ou non ? Et je pense que la problématique de prouver qu'il y a réellement, quand vous avez des forfaits, qu'il y a réellement exposition de dépenses vient de là, cette problématique.
Ouais, c'est un peu plus général quand même le point, mais effectivement, c'est
vous voyez,
il
y a
point,
aussi
ouais.
un des prix, enfin, c'est aussi un des prismes qui fait que il y a des remises en cause.
Je finis de répondre à la question, ensuite je prends toute votre question. Et donc, pour répondre à ce sujet-là, à mon sens, il ne faut pas rester les bras ballants dans l'entreprise. On ne peut pas attendre que ça nous tombe dessus. Et donc, la preuve, elle est libre. Donc, au maximum, il faut conserver un début de preuve. Donc, quand on a des collaborateurs qui, massivement, ont retour en indemnité grand déplacement, on sait très bien que sur votre masse globale de collaborateurs, pour ceux que c'est le cas, il y a de la triche. Il y en a qui prennent les IGD et qui rentrent chez eux tous les soirs, en réalité, et c'est de la rémunération déguisée. Et ça, on le sait, et tous les employeurs le savent pertinemment. Donc, comment faire pour minimiser ça ? Déjà, la première chose, c'est quand vous avez connaissance de triche, sanctionnez. Parce qu'un inspecteur qui se dit « Ok, il ne reste pas les bras ballants et il est proactif sur le sujet », il aura moins tendance à se dire « Il laisse complètement couler et si ça se trouve, c'est de la rémunération déguisée derrière ». Le deuxième élément de sécurité, moi, j'en reste convaincu, c'est annexé souvent sur les chantiers, quand il y a des déplacements, il y a des fiches de mission, je ne sais pas si c'est fait chez certains d'entre vous, quand il y a ces petites fiches qui sont faites sur les chantiers ou alors sur les agendas, annexé au trimestre des attestations sur l'honneur des collaborateurs. Parce que là, dans notre contentieux, c'était quoi le problème ? C'est que c'était des attestations un peu capillotractées qui avaient été produites en cours de procédure. Voilà. Quand on est sur des attestations type, qui sont remplies trimestriellement, semestriellement, voire même annuellement par les collaborateurs, c'est différent. L'inspecteur, il arrive dans une entreprise où il se dit, franchement, leur politique, elle est carrée. Ils ont des justificatifs, ils ont quelque chose, ils ont mis des process en place dans l'entreprise. Donc, on va dans le bon sens sur les IGD. Donc, ma réponse, c'est oui, on peut continuer les IGD. Il faut peut-être revoir un petit peu le paradigme par rapport à ce qu'on a connu sur les 10 dernières années, parce qu'on sent que le vent est en train de tourner, et se protéger un peu plus en mettant en place ces process qui, en soi, vont peut-être dans le bon sens. Ça permettra de voir aussi les collaborateurs qui trichent sur ces sujets-là. Oui.
Juste quelques remarques, en fait, par rapport à la sanction, c'est juste inconcevable. Enfin, on ne pourra pas sanctionner sur un plan RH les salariés qui abusent. Enfin, là, pour le coup, socialement, même en termes de dialogue social vis-à-vis de vos OS, c'est juste absolument intenable.
Je parlais pas de sanctions disciplinaires.
Ah.
Je parlais de sanctions charges sociales, donc soumettre à charge.
Ah oui, d'accord.
Oui. Mais non, je ne fais pas de droit de travail.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est okay, ça. Pardon.
Bien sûr. Okay, en fait, leur expliquer qu'il y a une logique URSSAF derrière. Okay. Et que, non, bah, bien, non, c'est même pas, je pense même pas que ça serait... Quoique, si ça, j'en sais rien. Ah bah, bon, si, ça serait envisageable, mais oui. Socialement, ça peut être très touchy. Oui. Mais voilà. Leur expliquer qu'en fait, s'ils rentrent chez eux... ces frais professionnels, c'est plus des frais professionnels, c'est de la rémunération en réalité, parce que ça indemnise leur déplacement. Et donc, s'ils ne sont pas en déplacement, voilà. C'était ça l'idée.
D'accord, ok. Non, et après, par contre, en fait, pour le coup, nous, dans notre entreprise, on a déjà, malheureusement, l'URSSAF est déjà passée là-dessus. Elle nous a déjà imposé le fait de devoir justifier avec des justificatifs tous nos forfaits, parce qu'on est une entreprise qui a extrêmement recours au forfait. On fait tout au forfait. Et encore une fois, socialement, c'est fondamental dans notre secteur d'activité. Mmh. On ne peut pas s'en passer. Nos OS sont extrêmement à cheval là-dessus. Elles ne lâchent rien, pour le coup, et les justifs au réel, c'est vraiment pas la culture de l'entreprise. Donc l'URSSAF nous a déjà rattrapé là-dessus et les process qu'on a mis en place, on n'est pas allé jusqu'à demander des factures parce qu'effectivement, ça reviendrait à mettre à terre le concept du forfait. Donc ça, on l'a pas fait. Mais par contre, on a mis en place d'autres systèmes de justificatifs et notamment, c'est ce qu'on évoquait à midi, des ordres du jour de réunion, des plannings de chantier qui attestent le fait que le salarié en question a dû se déplacer à tel endroit de telle période à telle période. Donc en fait, je pense qu'en termes d'innovation RH, on peut aussi proposer certes des justificatifs, mais sans tomber exactement dans la facture. Parce que là, oui, par contre, si on tombe dans la facture, c'est fini. Et du coup, la question, là, peut-être plus côté URSSAF, c'est quelle souplesse au niveau du justif. Parce que pourquoi pas justifier des frais au forfait? On peut comprendre, parce qu'avec tous les risques de rémunération déguisée qui sont, et ça, on les connaît, les pratiques, il n'y a pas de problème. Mais le regard de l'URSSAF là-dessus, c'est est-ce que vraiment l'idée, c'est d'aboutir finalement à une justification via des factures au réel de frais au forfait, ce qui n'est pas concevable.
On y va un peu. Bon, après, ou alors peut-être se prémunir de quelques preuves. Bon, vous avez certainement des salariés qui ont quelques factures. Recueillir quelques factures de façon épisodique, pourquoi pas?
Mais
regardez, pour les frais de transport, pour le Navigo, on fait une attestation sur l'honneur, mais régulièrement, il y a une tournée pour aller vous demander l'attestation, comme quoi vous payez réellement votre Navigo. Et pourtant, on est sur un...
Le Navigo, on le justifie tous les mois, pour le coup, oui. Ou tous les ans.
Non, on fait une attestation. Vous pouvez faire une attestation sur l'honneur avec par an.
Ah non, pas d'attestation.
Pour le FMD, oui, on fait une attestation.
Ah, vous faites tous les mois. Bon.
Pour le forfait mobilité durable, mais non, pour le Navigo, mais...
Nous, on le fait à l'année.
À l'année, oui. Ah oui, d'accord, vous faites
à l'année. À l'année, oui, parce que vous avez un abonnement. Quel est l'intérêt d'aller... Voilà.
Mais vous voyez, c'est là où... en fait, le seul fait de dire qu'il faut récupérer quelques factures, en fait, c'est la fin du forfait.
C'est-à-dire c'est clair. C'est... Mais on va peut-être y venir, parce que quand vous voyez quand même le libellé du boss, vous voyez le libellé de l'arrêt de la Cour de cassation, ça laisse songeur quand même. Moi, je suis employeur, enfin, je me mets de l'autre côté, j'essaie de me prémunir quand même quelque part pour dire, voyez, j'ai quand même des salariés, voilà, ça coûte tant, et d'ailleurs, mon forfait, il ne couvre même pas les frais qu'ils ont. Hein. Ah bon, après, voilà, moi, je suis toujours sur le principe de précaution.
Oui, mais le problème du principe de précaution ici, c'est qu'on vient détricoter une réalité juridique. Et
On en est bien conscient.
Et ici, ce que vous évoquez ici, par rapport au process là, que vous avez mis en place, que vous avez évoqué, moi, je considère que c'est des process qui sont défendables. Cet arrêt de la Cour de cassation, il a été rendu, encore une fois, par
après, s'il n'est pas publié...
Il n'est pas publié et on n'avait pas de... On voit bien dans la procédure que c'est des pièces qui ont été produites au fil de l'eau. On sentait qu'il essayait de se rattraper aux arbres. Vous avez des process qui sont quand même bien établis, j'ai l'impression. Donc, encore une fois, quand un inspecteur, il vient contrôler, s'il voit que c'est propre et qu'il y a quelque chose qui a été fait, et d'autant plus dans votre situation où vous vous êtes fait toper il y a 5 ans et que vous avez fait un pas énorme en avant pour faire évoluer votre pratique, ça, au contraire, c'est plutôt bien vu, je pense, par les URSSAF. Un autre sujet sur les indemnités de grand déplacement qui revient de manière constante, l'adresse du collaborateur. Comment je prouve l'adresse du collaborateur? Donc, ici... Le problème, c'est que effectivement, on a tendance à se dire bon, je prends le bulletin de paye, je prends l'adresse sur le bulletin de paye. Non.
C'est un peu juste. Surtout quelquefois qu'on retrouve l'adresse de l'entreprise.
Oui. Le point qu'on a ici, c'est que l'administration des contrôles URSSAF, souvent, ils demandent effectivement des preuves un peu plus tangibles de l'adresse du collaborateur, notamment des feuilles de déclaration fiscales, des factures de téléphone. Taxes d'habitation, enfin ce genre de choses. Question, administrativement, est-ce que c'est vraiment possible pour les entreprises d'aller récupérer tout ça pour les collaborateurs? Au début, on dit non, Mais il y a un moment donné, on ne peut pas que dire non. Parce qu'une fois qu'on se fait prendre une fois, deux fois, trois fois, qu'on va jusqu'en cour d'appel et qu'on n'obtient pas gain de cause, il y a bien un moment où on est obligé de plier. D'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas de se dire « c'est scandaleux ». Moi, je trouve ça dur pour les entreprises. Mais c'est de se dire « comment je fais ?». Et en fait, ici, nous, ce qu'on constate d'un point de vue pratico-pratique dans les entreprises, c'est que maintenant, on adapte les process de recrutement dans les kits d'accueil des collaborateurs, dans les éléments à récupérer, on adapte tout ça. C'est-à-dire quand on sait que c'est un collaborateur qui va être dans une situation de grand déplacement parce qu'il va travailler sur des chantiers, parce que c'est un chauffeur routier ou je ne sais pas quelle autre activité ici pourrait être, c'est un commercial qui a tendance à se déplacer énormément, eh bien, dans son process de recrutement, on va aller récupérer ces éléments et on va actualiser ce fichier au fil du temps. Alors, ça passe par la numérisation, hein, c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs ce matin, dans le recueil des justificatifs des éléments de la part des collaborateurs. Il y a de plus en plus d'entreprises qui, annuellement, font une demande de collecte de pièces aux collaborateurs en disant en janvier, automatiquement, merci de mettre sur votre portail électronique tel ou tel élément et on centralise toute la documentation. Mais c'est un travail quand même qui est extrêmement, extrêmement fastidieux. L'autre élément qu'on a sur les indemnités de grand déplacement, c'est les indemnités de grand déplacement du vendredi. Est-ce que je peux verser une indemnité de grand déplacement le vendredi, puisque par principe, le collaborateur ne dort pas le vendredi? La réponse est non. Ça a été tranché à de multiples reprises par la Cour de cassation. Il faut couper l'indemnité de grand déplacement en deux.
Sauf à démontrer qu'il reste sur place.
Bien sûr, qu'il n'y a pas de retour. J'évoque un point, ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes, sur le sujet qui va de pair avec les indemnités de grand déplacement, qui sont les voyages de détente. Les voyages de détente, ce sont des voyages pour lesquels les collaborateurs peuvent revenir le week-end chez eux, quand ils sont sur des chantiers. Et les URSSAF ont tendance à redresser assez fortement ces voyages de détente quand on ne démonte pas, par exemple, que le salarié a acheté un billet de train, ou alors quand le salarié, on lui verse un peu de manière forfaitaire des indemnités de voyage de détente et qu'en fait, il rentre à quatre dans la même voiture. Et ils ont tous les indemnités. Ici, l'idée, c'est quoi ? C'est on peut parfaitement verser une indemnité kilométrique sur les voyages de détente, mais dans ce cas-là, il faut bien se placer dans le champ des indemnités kilométriques. Et donc, il faut respecter toutes les indemnités kilométriques. Récupération de la carte grise, récupération de l'attestation de non-covoiturage, respect du barème des indemnités de kilomètres. Et encore une fois, process relativement lourd. Donc, si le process est relativement lourd, on essaye de faire en sorte de l'automatiser au sein des entreprises. Autre frais professionnel relativement souvent redressé. Il y a une petite pause.
Oui.
Ça.
Je n'osais pas vous couper, Quentin, mais c'est vrai qu'on va quand même faire une petite pause avant de continuer, parce que sinon, on pourrait y passer des heures sans se couper. Donc, il est 4h moins 20 à peu près. On se laisse 10 minutes, on reprend à moins 10.
Et donc, on continue sur les frais professionnels, les avantages en nature. On était sur les indemnités de petits déplacements cette fois-ci. Un petit déplacement, qu'est-ce que c'est ? C'est un salarié qui n'est pas en capacité de regagner son domicile ou son lieu de travail pour le déjeuner. Dans ce cas-là, on peut lui verser une indemnité de repas qui varie si, je cite, il est d'usage dans la profession de déjeuner ou non au restaurant. Idem ici, très compliqué de démontrer que le salarié est dans l'incapacité de regagner son domicile ou son lieu de travail. Moi, j'ai eu des contentieux sur ce sujet-là, où en fait, on avait fait des tableaux à n'en plus finir avec l'adresse du salarié, l'adresse du lieu de travail, l'adresse de mission, Google Maps, regarder la distance, etc., etc., avec des lignes, des centaines de lignes. Et l'URSSAF nous répondait non, vous démontrez pas qu'il n'est pas en capacité d'organiser son domicile ou son lieu de travail. Et donc on leur répondait, mais dites-nous, à partir de quand on peut considérer ça ? Est-ce que c'est 45 minutes ? Une heure et demie ? Est-ce qu'on prend en compte le temps pour se garer ? Parce qu'à Paris, c'est quand même compliqué de se garer, etc. On n'en pouvait plus. Bon. À la fin, on a été dans le contentieux sur ce sujet-là. On n'avait toujours pas de réponse, et il n'y a toujours pas de réponse à toutes ces questions. Hein. C'est laissé un peu à l'appréciation de chaque inspecteur, et c'est tout le problème. On a été, pour un peu, entre guillemets, décrédibilisé hein, le refus obstiné qui nous avait été fait. Ce qu'on a fait dans ce dossier, c'est qu'on a demandé à un huissier de prendre 5 collaborateurs au hasard dans le tableau, c'est lui qui les a choisis, et de faire les trajets. Métro, voiture, vélo. Et un constat d'huissier pour démontrer, on lui demandait à chaque fois de dire s'il avait le temps de manger. Voilà. Et en fait, dans ce constat, effectivement, il ressortait qu'il n'avait pas le temps de manger s'il était sur telle mission, ni dans le lieu de travail, ni au domicile du collaborateur, parce qu'il n'avait même pas le temps d'y revenir. Et on a eu gain de cause. Alors pourquoi je vous prends cette petite anecdote, en fait ? C'est parce que, à mon sens, ici, on est face à un sujet où on n'aura jamais de réponse parfaite. C'est-à-dire que la personne qui va venir vous dire « Oui, là, c'est sûr, il est en situation de petit déplacement, de manière totalement sécurisée », c'est faux. On ne peut pas dire que c'est à partir d'une demi-heure, on ne peut pas dire que c'est à partir d'une heure et demie, c'est une appréciation au cas par cas. Et donc, ça signifie que si vous versez des indemnités de petit déplacement, il faut faire extrêmement attention aux justificatifs à apporter. Notamment, on évoquait pendant la pause faire matcher les plannings avec les justificatifs. Mais en fait, à mon sens, il faut même aller un peu au-delà et faire ajouter une petite mention dans le planning où, par exemple, c'est impossibilité de regagner le domicile ou le lieu de travail. C'est tout bête, mais le simple fait de l'écrire de manière contemporain à la journée, ça démontre que c'est pas, on l'a pas fait post-contrôle et que donc on était bien dans ce sujet-là.
Bien, vous pouvez avoir une note de service qui vous définit quand vous indemnisez le repas parce que la personne est en petit déplacement en disant bon voilà, la personne qui part entre 11h et 14h30 de l'entreprise, qui peut pas regagner l'entreprise avant 14h30, eh bien sera censée être indemnisée de son repas. Vous avez aussi ce biais.
Oui, tout à fait.
Hein, le définir par avance, à quel moment vous allez l'indemniser de ses frais de repas, s'il est dans la possibilité de regagner l'entreprise parce que vous lui avez demandé de faire une démarche.
Ensuite, on a les frais liés aux outils issus des nouvelles technologies, donc téléphone, ordinateur portable.
Oui, alors là, on est plus sur l'historique. Hein.
Voilà, on est plus sur l'historique.
Moi, qu'on était bon sur les textes de 2002 qui n'ont pas évolué. Ouais, donc, c'est vrai que l'évaluation des 10%, elle est faite encore dans certaines URSSAF, mais plus sur
d'autres. Je ne vois plus du tout le redressement sur ce sujet.
Ça s'est décanté avec le droit à l'erreur et le discernement.
Oui, le discernement.
Le discernement.
Oui.
Sur les petits déplacements, lorsqu'un salarié part, par exemple, en déplacement en province sur une journée, il est amené à prendre le bus. Et maintenant, la grande pratique, c'est d'acheter le ticket de bus via l'envoi d'un SMS sur le téléphone portable. Et donc, se pose la problématique ensuite du remboursement.
De garder la preuve.
Voilà, sur la base d'une preuve, d'un justificatif.
Il faudrait demander qu'il vous fasse une copie d'écran.
C'est ça, c'est la capture d'écran.
La capture d'écran.
D'accord.
Je ne vois pas d'autres moyens, hein, là, malheureusement.
Non, après, un inspecteur borné pourrait venir vous dire, non, ce n'est pas une facture, donc je ne prends pas. Mais encore une fois, c'est un début de preuve.
Mais il n'y a pas d'inspecteur borné. Ils vivent avec leur
temps. Parce que c'est une capture d'écran qui indique l'achat, en fait, du titre de transport, mais pas, qu'il n'a pas forcément été consommé, en plus. Il peut acheter à l'avance le titre de transport et
ne pas l'utiliser.
Enfin, vous voyez, on tombe après dans beaucoup de questions.
Mais si on fait, encore une fois, si on arrive à faire matcher l'agenda du collaborateur à démontrer qu'effectivement, il avait ce déplacement avec ce biais, normalement,
d'accord,
il y a quand même on a pas mal d'éléments qui vont dans le sens de il y a eu ce déplacement à lieu.
D'accord. Et si la capture d'écran, pour X raisons, n'est pas obtenable, est-ce qu'une attestation sur l'honneur du salarié pourrait suffire ?
Alors, sur ce type de frais, on est sur des frais réels, pour le coup. Ce n'est pas des forfaits. Donc, à partir du moment où on est sur des frais réels, il faut apporter la preuve d'achat.
D'accord.
Et là, une attestation pour l'honneur, à mon sens, ne serait pas admissible dans cette situation parce qu'on n'apporte pas la preuve d'achat.
D'accord.
Et donc, déjà, un peu, ce serait presque une tolérance, ce screenshot, parce que ce n'est pas la facture, il n'y a pas la TVA, etc. Même s'il n'y a pas de TVA sur les transports. Mais ça serait, à mon sens, une attestation pour l'honneur serait insuffisante. L'attestation pour l'honneur, elle trouve son sens quand on est sur du forfait.
On n'est pas sur du réel.
D'accord.
Oui, pardon.
Vous êtes passé assez vite sur les smartphones et les ordinateurs portables, parce que c'est plus un débat, c'est plus au contraire, non ?
Alors juridiquement, si, ça reste un débat. C'est-à-dire que juridiquement, la règle, pour tout le monde, hein, c'est que le fait de mettre à disposition par l'employeur un téléphone, ça constitue un avantage en nature qui peut être évalué sur la base de 10% de l'abonnement ou de la valeur. Bon,
d'accord.
Y a une tolérance qui a été reprise dans le BOS qui vient nous dire que si l'usage de ces éléments est strictement professionnel et quand bien même il y a une utilisation personnelle marginale, il n'y a pas lieu de constater un avantage en nature. D'accord ? Maintenant, toutes les entreprises que je vois ont dans leur charte d'outils de gestion des frais professionnels une mention comme quoi l'usage est strictement professionnel avec un usage personnel marginal. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'éléments signés par chacun des collaborateurs. Et notre pratique, c'est que dès lors qu'on a cette charte, les inspecteurs ne vont pas voir plus loin en réalité.
Vous confirmez pour le coup ? Ouais, parfait alors. Nickel.
C'est pour ça que ce matin, je n'ai pas réagi quand vous m'avez indiqué, mais je trouvais le process quand même relativement lourd. Les frais liés au télétravail. Ces frais liés au télétravail, pendant très longtemps, ils étaient au réel, ces frais liés au télétravail, donc en réalité impossible à demander. En décembre 2019, sur le site des URSSAF, on a une évolution réglementaire sur le site des URSSAF, et on a ouvert la voie au forfait, 10 euros par jour de télétravail par mois, je ne sais jamais comment le dire. C'est ça, c'est 10 euros. Oui, c'est ça. Et donc jusqu'à 50 euros au maximum, ça a été pérennisé.
Et revu dans le cadre du BOS au niveau des mentes,
aligné avec l'administration fiscale. Donc maintenant, c'est soit 10 euros par jour de télétravail, soit 2,5 euros par jour télétravail. Soit, si on a un accord de groupe, on peut aller sur un montant supérieur à ces éléments, avec un plafond qui a été fixé à, il me semble, 15 euros par jour de télétravail.
Je l'ai plus en tête, là.
Il y a un plafond. À la base, il n'y avait pas de plafond qui avait été fixé. Donc ici, on est sur du forfait. Le terrain de la preuve va bouger un petit peu. On va voir comment ça va être appréhendé par les URSSAF. Nous, les premiers retours pratico-pratiques de terrain qu'on a sur le sujet, c'est que moi, j'étais persuadé que les URSSAF allaient contrôler la réalité du télétravail. Est-ce que le collaborateur est vraiment en télétravail ? Sortez-moi des plannings, je vais faire un petit échantillonnage. Vous me sortez les plannings et je vais vérifier que le collaborateur est vraiment en télétravail. La réalité, c'est que pour l'instant, on ne voit pas ce type de contrôle. Ils se contentent uniquement de vérifier que les montants sont conformes au barème. C'est là où on voit toute la difficulté du forfait. C'est que sur le télétravail, il y a une espèce de mansuétude générale. Sur les IGD, où on sait qu'historiquement, il y a eu quelques abus, on essaye d'aller chercher un peu de logique. Un peu de force probante, pardon. Je ne sais pas sur les frais liés au télétravail, si vous allez chercher la preuve du télétravail ou pas.
Écoutez, moi, j'ai rien qui remonte à mon niveau. Donc, voilà. C'est que tout se passe bien.
Et nous, on n'a pas de redressement sur le sujet. Donc, c'est que tout se passe bien aussi. On n'a plus de redressement sur le sujet, parce qu'on en avait beaucoup avant. Ensuite, on a, toujours dans les frais, on a les indemnités kilométriques. Bon, on les a évoquées rapidement sur les voyages de détente, les ICA, justificatif du transport, carte grise, attestation de non-covoiturage. Pas dans l'air du temps, ça, d'ailleurs. Et mais c'est pour des personnes de la même entreprise, pour le coup. Et surtout, le tableau, le fameux tableau de bord des indemnités kilométriques. Une remarque là-dessus. Là, on parle des indemnités kilométriques de déplacement professionnel. Quid des indemnités kilométriques domicile lieu de travail ? Si je prends mon véhicule pour venir travailler, est-ce que je peux bénéficier des indemnités kilométriques ? Pendant très longtemps, on avait une doctrine administrative qui venait nous dire que oui, c'est possible si l'éloignement ne relève pas de convenance personnelle et qu'il est impossible de prendre les transports en commun. On a eu une petite frayeur dans le BOS, puisqu'il y a eu une modification sur les ICA, et on a cru que c'était un peu la fin de cette pratique des ICA. J'avais l'occasion d'interroger... c'était qui qu'on avait interrogé ? C'était les... Je ne sais plus, l'URSSAF, Caisse nationale ou la DSS, qui nous avait dit non, pas du tout, ça a été rectifié. Donc effectivement, il y a un point qui a été rectifié. Je ne comprends toujours pas tout à fait la même chose qu'avant. Mais a priori, rien de nouveau sous le soleil, et c'est ce qu'on constate dans le cadre des redressements URSSAF. On continue d'avoir la même doctrine qu'antérieurement. Je ne sais pas si Mme Rezolena, vous avez eu des retours.
Non, on n'a pas de modification.
Une remarque quand même, il faut bien démontrer l'impossibilité de prendre les transports en commun et l'éloignement ne relève pas de convenance personnelle. Mmh. L'URSSAF est très 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 strict là-dessus. Nous, on a un contentieux là en cours, c'était une usine perdue en pleine campagne. L'URSSAF est venu dire que qu'il y avait une possibilité, parce que vous savez, il y a ces lignes de bus interrégionales là, qui passaient, qui s'arrêtaient devant l'usine une fois toutes les 3 heures, c'était des 3-8 dans l'usine. Et là, on est devant la cour d'appel, encore avec un constat d'huissier, pour dire que c'est quand même pas très prudent de dire à nos collaborateurs de prendre le bus à 3h du matin. Donc, attention, voilà, il faut conserver ce mode de preuve en amont. Oui, il y a une question.
Ce que je comprends, c'est que l'impossibilité de prendre les transports résulte du réseau d'infrastructures lui-même. Ça ne peut pas être un motif médical, par exemple.
Vous pouvez avoir un motif médical.
Si, on peut avoir un motif. D'accord.
Alors peut-être qu'il ne sera pas d'emblée accepté par votre inspecteur, mais là, vous allez au contentieux.
D'accord.
En général, ça ne franchit pas le seuil de la commission de recours amiable.
D'accord.
Moi, je l'ai eu pour un handicapé où, clairement, il était dans la possibilité de prendre les transports en commun.
Mais par exemple, un mi-temps thérapeutique avec impossibilité de prendre les transports sur prescription médicale,
oui.
Si on a pris en charge un autre moyen de transport type taxi, etc., et qu'on n'a pas mis en avantage pour le salarié, on peut le démontrer.
Vous avez un avis d'accord. médical qui fait que la personne est dans la possibilité de prendre des transports, donc c'est la raison pour laquelle d'accord. vous avez été amené à l'indemniser sur un temps
oui.
bien, bien encadré, hein,
d'accord.
sur le temps de la prescription médicale.
Merci.
Ensuite, on a tout ce qui est frais de nourriture. Un vaste débat. Le BOSS a supprimé ce qu'on appelait les frais d'entreprise. Je vous rappelle la notion de frais d'entreprise. C'était des frais à caractère exceptionnel qui sont engagés dans le cadre pas de l'activité professionnelle du collaborateur, mais de la marge générale de l'entreprise. Ces frais d'entreprise ont été totalement abandonnés, supprimés. C'était une création de la doctrine administrative, pour le coup. Et on les a repris et on les a redispatchés un peu dans les frais professionnels. Mais pas tous. Parmi les frais de nourriture les plus fréquents, on a les fameux repas d'affaires. Ces repas d'affaires, qui constituent avant des frais d'entreprise, sont maintenant donc des frais professionnels, ce qui pose des questions qu'on évoquera, si certains le souhaitent, par rapport à la DFS. Je vous laisserai peut-être poser des questions si vous le souhaitez. Mais ces frais professionnels, ils sont admis sous réserve que, on est pour le coup vraiment une facture, là il faut une facture, l'identité des personnes qui participent à ce repas, je ne sais pas s'il y a une logique de rémunération des tiers, mais, et on pourrait presque aller, hein, si on suit le raisonnement, mais bon, et derrière aussi la compétence des personnes, c'est-à-dire le poste des personnes. S'il y a ces deux informations, on est dans le repas d'affaires. La question, c'est quelle est la récurrence du repas d'affaires ? Là, le BOSS a été bienvenu parce qu'il a ajouté une précision qui n'existait pas auparavant. Il est venu nous dire que la logique, c'est à peu près 5 repas d'affaires par mois.
Par mois.
D'accord. Mais qu'il y a une exception quand, dans la nature de l'activité du collaborateur, c'est de faire des repas d'affaires, on peut aller au-delà. Et cette précision, on ne l'avait pas avant dans la circulaire de 2003. C'est intéressant parce qu'on sait que certaines personnes, par exemple des commerciaux, par nature, ils vont faire plus de 5 repas d'affaires par mois, parce que leur activité, c'est d'aller manger avec des clients pour faire de l'activité de prospection. Enfin, pas que de manger. Notamment, on sait très bien qu'autour d'un bon repas, c'est parfois plus simple. Et donc, ici, on a eu cette précision. Question, moi, je pense que c'était toujours mieux de sécuriser un peu les choses. Maintenant, ce que je dis, c'est quand on a des salariés qui, par nature, vont faire pas mal de repas d'affaires, si on veut se prémunir, parce que l'URSSAF, dès qu'elle voit un excès, elle a tendance à regarder, à avoir un œil critique sur ses excès, c'est de démontrer que c'est dans sa nature, dans la fiche de poste du collaborateur, d'aller au restaurant régulièrement pour des repas d'affaires. Et donc, pourquoi pas mettre une petite mention dans le contrat de travail du collaborateur. Ça pourrait être un bon mode de preuve pour démontrer ça à l'inspecteur en cas de contrôle. Autre frais de nourriture qui pose question, les plateaux repas pendant les réunions.
Oh,
oh là là.
Vaste sujet.
Redressement de 260 000 euros sur des plateaux repas. Alors, c'est des entreprises, en fait, qui, effectivement, font des réunions. Et c'est vrai que ça nous arrive, même nous, au cabinet, hein, d'ailleurs. On se commande des plateaux repas pour faire nos réunions. Parce que bah, on est pris dans le flot quotidien et souvent, le meilleur moment pour faire une réunion, c'est le repas. On a vu des pratiques de certaines URSSAF venir redresser ces frais repas, ces plateaux repas, en disant, bah, écoutez, ces plateaux repas, moi, je considère qu'il n'y a pas de situation de déplacement puisque vous êtes sur site, donc vous ne rentrez pas dans le petit déplacement et que donc, c'est un avantage en nature nourriture. Alors, redresser soit sur la base réelle, soit sur la base du forfait, c'est un autre débat, on n'ira pas aussi loin. Moi, à mon sens, il faut redresser sur la base du forfait. Mais sans même aller dans l'évaluation du redressement, le redressement en lui-même, à mon sens, est problématique. Parce que on est sur des repas pris pour l'activité professionnelle. C'est-à-dire que les collaborateurs, pendant le repas, ils sont sur leur temps de travail. C'est bien un frais professionnel. On est sur une dépense engagée dans le cadre de l'activité professionnelle du collaborateur. Et que donc, ici, c'est toujours la même chose. C'est une question de preuve. Quand on a une ligne de dépense sur l'année ou sur 3 ans, 800 000 euros de plateau repas, mais qu'on est incapable d'aller faire corréler le plateau repas à telle ou telle réunion, bah là, effectivement, l'inspecteur, il va peut-être tiquer un petit peu. En revanche, si on est en capacité d'aller dans les objets de la réunion, rattacher les bons de commande des fameux plateaux repas, là, ça va un peu plus être facile, puisque la réunion, par nature, est une activité professionnelle, et si on a un ordre du jour, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas théorique comme chef de redressement, pour le coup. Autre thématique de redressement.
Alors,
sur les...
Oui. Les redressements sur les plateaux repas ont évolué dans certains organismes avec la notion de discernement.
C'est une bonne chose.
Je vous assure, quand vous présentez un dossier comme ça en commission de recours amiable, vous avez des administrateurs qui font des bons.
Mais à juste titre. Mais...
De même, les repas de fin d'année qui, quelquefois, sont repris.
Oui, oui. Maintenant, on a une tolérance dans le boss.
Oui. Mais heureusement, il a fallu une tolérance dans le boss.
Frais de nourriture, justement, ces fameux repas de fin d'année, ces avantages octroyés aux collaborateurs. La boss est venue nous dire qu'une fois par an, on pouvait organiser un repas, alors avec des conditions quand même très strictes. Oui. Hein. Il faut que tous les collaborateurs de l'entreprise soient invités. On sait très bien que dans beaucoup d'entreprises, il y a ces fameux repas de service qui sont organisés de temps en temps, une fois par trimestre, une fois par semestre, une fois par semaine, on a un client, c'est une fois par jour. Et donc,
ça pose difficulté, là.
La question, c'est est-ce que c'est un frais professionnel? Bon, aller boire un verre entre collègues, l'URSSAF, elle considère que c'est pas un frais professionnel. Elle considère que c'est un avantage en nature. Moi, je considère que c'est un frais professionnel. Parce qu'à mon sens, la politique de l'entreprise, le management de l'entreprise, la volonté de conservation de ses équipes et de travailler dans un cadre de vie agréable fait que ces moments de détente sont essentiels. En fait, c'est presque de la santé sécurité au travail.
Jusqu'où il va ? Alors, attention. Hein.
Et donc, non mais, blague à part, vraiment, je n'irai pas aussi loin, mais je le pense en partie. Et donc, à mon sens, ça, c'est des frais professionnels. Et d'ailleurs, pour preuve, parfois, on constate qu'il y a certains collaborateurs qui disent « Encore ce repas d'équipe, la trimestrielle, ça me barbe un peu d'y aller, mais j'y vais quand même parce que ça fait partie de la vie de l'entreprise. » Et ça démontre bien qu'en soi, voilà, c'est pas, y a quand même une notion derrière de « Je le fais pour le management de l'entreprise. » Donc, moi, je considère que c'est des frais professionnels. Là-dessus, je sais qu'on est en désaccord, qu'on a des redressements.
Oui, il y a des redressements.
Qui sont, mais bon, voilà, c'est un point encore en cours.
Après, il faut convaincre l'inspecteur, c'est tout.
C'est ça. Et d'où l'importance de la phase de contrôle sur place. Hein. Vous voyez, en le faisant rire avec une petite blague sur la santé et sécurité, parfois, ça peut...
ça peut aider.
Ça peut aider. Les cadeaux octroyés aux salariés, pareil, les cadeaux qu'on octroie aux salariés, bon, bah là, c'est un avantage en nature qui est intégralement soumis à charge, sauf quand on rentre dans le champ des activités sociales et culturelles. Énorme alerte sur les activités sociales et culturelles. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de texte. On travaille sur des circulaires de 1985. Et si un inspecteur USAF décide de vous redresser parce que vous n'êtes pas sympa, vous aurez beau aller vous battre devant le juge, il maintiendra le redressement parce que cette circulaire de 85 n'a aucune valeur juridique. D'accord ? Et on le constate chez certains de nos clients. C'est-à-dire que, en gros, il a été trop loin avec l'URSSAF, l'inspecteur, il en a ras-le-bol, bah, il va aller taper les ASC, et derrière, on peut s'agiter dans tous les sens, ça ne fonctionnera jamais.
Rien dans le BOSS prévu
Alors si, si. Il y a eu une réunion la semaine dernière où on nous a présenté les évolutions du BOSS, côté DSS, et on attend une fiche sur les activités sociales et culturelles. Ça m'a fait un petit peu sourire, parce que toujours dans cette même
mais
logique...
Mais via le CSE et au point de vue...
Les deux, via CSE deux, et employeur sans CSE. Ça m'a fait sourire parce qu'on n'a pas de texte légal. Hein.
Non, on n'a rien.
Donc bon, qu'est-ce que va commenter le boss
On n'a rien, on vit sur une tolérance.
Exactement.
De Georgina Dufoy.
Autre thématique sur les avantages en nature, et après on passera aux questions parce que je vois qu'il y en a un certain nombre. L'Agir Carco. Alors... Madame Rezuyena a indiqué qu'il n'y avait pas eu le transfert de compétences à Gercarco, mais ça n'empêche pas les URSSAF de redresser certaines thématiques à Gercarco. La retraite complémentaire à Gercarco, vous savez, en France, il y a une pyramide, on a le régime de base, et au-dessus, on a le régime de retraite complémentaire à Gercarco par point. Je vous mets de côté le régime des IEG. Et dans ce régime de retraite complémentaire à Gercarco, on a parfois ce qu'on appelle des opérations dites dérogatoires, où les entreprises cotisent à un taux supérieur au taux de droit commun, ou alors ont une répartition plus favorable que celle de droit
que
commun.
50-50.
C'est valable d'un point de vue URSSAF, c'est-à-dire que l'URSSAF nous dit pas de souci, vous pouvez le faire sans que ça soit considéré comme un avantage en espèces, si ça date d'avant 93 ou d'avant 98. Et là, on se retrouve face à un jeu d'aller démontrer le caractère historique de ces opérations. On est en 2023 maintenant.
2023. 30 ans.
Donc, ça fait 30 ans. Il faut remonter 30 ans en arrière. Il faut démontrer que la pratique, elle date de 30 ans en arrière. Autant vous dire que dans des sociétés ou dans des groupes, il y en a eu des opérations de restructuration, de réorganisation. Et donc, pour retrouver le contrat Agir Carco, ben, ils peuvent se lever de bonne heure. Et ça fait un petit bout de temps, moi, que je me bats pour dire que si les caisses de retraite complémentaires Agir Carco acceptent ces opérations dérogatoires, c'est que par définition, elles sont justifiées, puisque ces caisses de retraite complémentaires, elles sont sous la tutelle du GIE Agir Carco, qui est lui-même sous la tutelle de l'État, et dans leur statut, ils sont garants de la conformité de l'ANI, donc des règles de l'Agir Carco. Donc par définition, si ces caisses qui sont sous la tutelle des URSSAF avec lesquelles vous auriez dû travailler, valident ces opérations et les ont en compte, c'est que par définition, quelque part, elles sont valables. Et donc, à mon sens, le simple fait qu'une caisse appelle des cotisations sur la base d'une répartition dérogatoire vaut présomption de validité de la pratique, ou à défaut, ça veut dire que la caisse de retraite complémentaire, Clésia, etc., ils sont dans l'immeuble, j'ai vu, la caisse de retraite complémentaire, eh ben, en fait, elle ne fait pas son job, et c'est elle qui est en faux, ici, c'est pas l'entreprise. Et il y a eu un manquement à l'obligation de conseil de la caisse de retraite complémentaire qui aurait dû informer le client en disant « c'est pas valable ». Et on est content, parce qu'on a eu gain de cause dans l'URSSAF PACA, qui commence à admettre cette présomption inversée. Et je trouve ça que c'est une bonne chose, parce que ça donnait lieu à des redressements dans des grandes entreprises de plusieurs millions d'euros, avec une grande complexité de contestation.
Oui, enfin, qui souvent se dégonfle au stade de la cour d'appel, parce qu'on retrouve le fameux accord...
Oui, mais c'est tard.
C'est tard, oui, malheureusement. Et moi, j'en ai peu qui sont allés... Au bout, hein, derrière, on a la justification.
Oui, on retrouvait l'attestation qui allait bien.
On retrouve la bonne attestation.
Voilà un peu sur les frais professionnels avantages en nature. Alors, je sais qu'on n'a pas tout évoqué, donc je vais prendre des questions en ligne. Et puis si dans la salle, vous avez des questions également, n'hésitez pas.
Alors, je vais faire... Oui, il y a un avantage en nature, donc on va faire plutôt frais professionnels. Pour les personnels itinérants, par rapport au justificatif de repas à l'extérieur, est-ce qu'il peut y avoir un contrôle est-ce qu'un contrôleur, effectivement, peut essayer de contrôler que la personne ne rentre pas chez elle ? Comment est-ce qu'on peut contrôler ? Comment est-ce qu'on peut justifier ?
Alors un salarié itinérant, hein, c'est un salarié bien sûr qui ne regagne pas, son lieu de travail, hein, par exemple un chauffeur routier. Bon, en fait, tout dépend de l'activité. C'est-à-dire que si c'est inhérent à son poste de ne pas avoir de lieu de travail, par exemple un chauffeur routier, par nature, on va pouvoir démontrer qu'il ne regagne pas son lieu de travail. Question, est-ce qu'il regagne son domicile ? C'est un autre problématique, ça. En général, on peut le prouver via les plannings de cette personne, sa tournée, qui ne va pas pouvoir regagner son domicile. Là-dessus, pour le coup, j'ai rarement vu des redressements sur les invités repas versés à des salariés itinérants, mais parce que, voilà, ils ne vont pas aussi loin.
Pour les détachés syndicaux, oui. Mandatés et qui, coup, ne sont pas forcément... Enfin, sont à temps plein, j'imagine, mais détachés à temps plein.
Mm-hmm. Sur la fourniture du fait générateur c'est...
Ben, je n'ai pas la personne à côté de moi.
Alors, à mon sens, il n'y a pas de...
Par rapport aux indemnités...
Oui, alors... Ouais, c'est...
Prêt repas,
pour moi, il n'y a pas de spécificité particulière pour cette population. Mm-hmm. Mais est-ce que on doit verser des indemnités de repas dans le cadre de l'activité syndicale du collaborateur ? C'est presque plus du droit du travail, cette question. Mm-hmm. Mais,
après, s'il est amené à aller de site en site, ça doit être ça, la problématique.
Oui, je pense que c'est
plusieurs établissements.
Ah oui, donc c'est un itinérant, c'est ça.
Il va faire des petites présentations à droite, à gauche.
Pour rencontrer les salariés.
Pareil, même chose. Alors, dans ce cas-là, il faut conserver son planning de balade de site en site.
OK. On a une question sur un sujet qu'on a évoqué ce matin, mais on revient dessus parce que j'avais déjà eu la question et c'est vrai qu'on était passé à autre chose, sur effectivement par rapport à la dématérialisation des notes de frais. Mm-hmm. Et effectivement, toujours le même sujet, comment on peut s'assurer qu'on est dans les clous par rapport à un document numérisé.
Alors, il y a des conditions, il y a 7 conditions à respecter, donc il suffit de vérifier ces 7 conditions. Bon, je rigole, c'est pas aussi simple que ça. En fait, les prestataires qui vous proposent cette numérisation, ils se targuent de respecter, c'est-à-dire qu'ils ont un label, ils s'auto-créent un label avec où ça leur génère contractuellement une obligation de résultat, en réalité. C'est de cette manière-là qu'on peut vérifier. Si vous le faites, vous, en interne, c'est de pointer chacun des éléments. Il me semble qu'il y a un client qui m'avait dit qu'il y avait des entreprises qui faisaient des audits externes pour vérifier qu'on respecte bien ce label. À la base, ça avait été développé pour le côté fiscal, mais du coup, ça marche aussi pour l'administration fiscale, vu que c'est les mêmes règles. Mais encore une fois, je reviens sur ce sujet. Dépenser plus d'énergie sur le process de récupération, de démontrer la situation de déplacement, de démontrer la situation de justification, d'allocation de la dépense, plutôt que est-ce que je respecte bien tous les critères de l'arrêté, puisque d'un point de vue pratico-pratique, pour l'instant, on n'a jamais vu une URSSAF. On gère plus d'une centaine de contrôles URSSAF dans notre équipe. On n'a jamais vu une URSSAF aller sur ce terrain.
Alors, j'ai des questions avantages en nature, donc je les garde pour tout à l'heure. Sur le forfait télétravail, pour la preuve de l'activité en télétravail, est-ce qu'un relevé d'activité signé par le collaborateur avec la mention du télétravail sur chaque journée suffit ?
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À mon sens, pour l'instant, les URSSAF ne vont pas aussi loin et ne demandent pas la preuve du télétravail. Donc oui, ce que vous proposez sera largement suffisant.
Ok. Bon, je garde mes questions pour avantages en nature.
Allez-y.
Ok, alors on y va aussi.
De toute façon, pour le télétravail, en principe, vous avez déjà un accord d'entreprise qui vous définit les principes de télétravail, le nombre de jours, etc. Et ensuite, vous avez la démarche du salarié qui va vous dire, voilà, moi, je serai en télétravail tel et tel jour. Et puis, vous avez la problématique alors, de ceux qui sont à jour fixe et ceux qui sont, ce qu'on appelle en télétravail occasionnel. Où là, effectivement, vous avez un nombre de jours dans l'année où le collaborateur peut être en télétravail. Alors, bien souvent, vous avez un suivi. Vous avez un suivi de ce télétravail parce que derrière, ça donne lieu à indemnisation.
Oui.
Donc, en principe, vous avez des instruments de suivi de vos collaborateurs qui sont en télétravail. Je ne pense pas qu'un employeur va aller verser des indemnités si la personne n'est pas en télétravail. Il va vouloir s'assurer que la personne atteste qu'elle est tel jour, pour le télétravail occasionnel, elle atteste qu'effectivement, elle est en télétravail. Souvent, vous avez un workflow de suivi de ce télétravail.
Alors, une entreprise met en concurrence ses commerciaux par région en offrant un voyage aux vendeurs de la région la plus performante. Quel est le régime de cet avantage ?
Bah, vous ne payez pas de charge. Hein. C'est bien sûr un avantage en nature. On est dans ce qu'on appelle les challenges. Et les challenges sont intégralement soumis à charge de jurisprudence constante. D'ailleurs, je crois que ça a été repris dans le BOSS, ce sujet. Alors, étonnamment, l'administration fiscale, elle considère que ce n'est pas soumis à impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'on a une différence. Pourquoi ? Parce que dans la logique de l'administration fiscale, dès lors qu'il y a un aléa et qu'on est sur un jeu concours, il n'y a pas à payer d'impôt sur le revenu. C'est la même logique. Je souligne cette disparité.
Après, on est sur les véhicules de fonction. Il y a une question large et une question plus précise, mais je vais commencer par la plus précise. Est-ce qu'on peut prouver la non-utilisation à titre personnel par un carnet de bord ? Est-ce que cela suffit ?
Alors, sur les véhicules de fonction, donc je vous rappelle le sujet avantage en nature véhicule.
Parce que la deuxième question, c'est quels sont les redressements les plus courants ?
Donc ça, c'est les redressements les plus courants, l'avantage en nature véhicule. Les avantages en nature véhicule, ils peuvent être évalués de manière au réel, ça se fait jamais, enfin je ne l'ai jamais vu moi, ou au forfait. Le forfait, c'est soit 12% du prix d'achat du véhicule, s'il y a une carte carburant, ou 9% s'il n'y a pas de carte carburant. Et si on est en leasing, c'est 30% ou 40% du coût de la location plus de l'assurance. Et c'est 40% s'il y a le carburant. Les cas de redressement les plus fréquents, c'est des entreprises qui sont à 9% ou à 30%, qui délivrent une carte carburant à leurs collaborateurs, mais qui ne démontrent pas que les collaborateurs ne peuvent pas l'utiliser à titre privé. En gros, les salariés, ici, ils vont avoir leur carte carburant, qui est par principe à finalité uniquement professionnelle, mais ils vont l'utiliser à des fins personnelles. Et l'URSSAF va dire, non, vous ne pouvez pas évaluer à 30% ou à 9%, il faut monter à 40% ou à 12% pour votre évaluation. C'est très compliqué, quand on a une carte carburant, de démontrer qu'il n'y a pas d'utilisation à titre personnel. Le seul moyen, c'est d'imposer aux collaborateurs de faire le plein personnellement au début du week-end et à la fin du week-end, au début des congés, à la fin des congés, enfin, etc., etc., avec un suivi précis de la carte carburant accompagné d'un carnet de bord. Autant vous dire que c'est très, très, très compliqué. Bon, après, nous, on voit que la catastrophe, donc on voit que les redressements. Oui. Mais on a beaucoup d'entreprises qui s'amusent à tenter le coup, justement, de la carte carburant à des fins uniquement professionnelles et qui, derrière, se font toper parce qu'ils sont insuffisants dans le mode de preuve.
Dans l'évaluation.
Et là-dessus, l'URSSAF est extrêmement strict.
Alors, effectivement, ça fait partie des redressements fréquents en matière d'évaluation d'avantages en nature véhicule, la carte carburant. Et puis le carnet de bord, qui est quand même conseillé quand vous avez un véhicule de société, pour démontrer effectivement qu'il n'y a pas d'utilisation privative.
Donc ça, c'est des points qu'on a évoqués rapidement sur quand même les frais de transport domicile lieu de travail. On a beaucoup de questions actuellement qui nous remontent sur les nouveaux modes de travail. Les collaborateurs qui sont partis vivre en province, est-ce que je dois leur rembourser leurs frais de transport ? Comment c'est traité d'un point de vue droit du travail, d'un point de vue URSSAF ? On commence à avoir une construction doctrinale sur le sujet, mais c'est très lent. Et du coup, c'est assez compliqué de répondre. Madame Rezuena, je vous laisserai rebondir là-dessus, mais moi, ma ligne de conduite pour l'instant, c'est de me dire que il faut bien distinguer les abonnements et la prise en charge du billet pour faire Paris-Marseille si je travaille à Marseille, enfin c'est plutôt l'inverse, si je travaille à Paris deux jours par semaine. Quand on est sur un abonnement, le principe est que de toute façon, d'un point de vue du droit du travail, l'employeur doit prendre en charge 50%. Ces 50% sont exonérés de charges. On peut même aller jusqu'à 75%, légalement désormais, et dans la doctrine, on peut même aller jusqu'à 100%, sous réserve que l'éloignement ne relève pas de convenances personnel. Et c'est là que le bas blesse. Donc ça, c'est sur les abonnements. En revanche, dès lors qu'on sort de la logique de l'abonnement, à mon sens, ce qui doit vous guider, c'est la convenance personnelle. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est ajoutée dans le BOSS, c'est-à-dire que quand on a un collaborateur qui est éloigné de son lieu de travail habituel pour des raisons de convenance personnelle, ce n'est pas à l'employeur d'aller indemniser ses frais de transport, ses frais d'hôtel quand il vient travailler. Et donc, dans ce cas-là, on tombe dans la notion de convenance personnelle. Et donc, c'est par définition antagoniste avec la notion de frais professionnels. Donc, si on a de la convenance personnelle, on n'a pas de frais professionnels. En revanche, la logique, elle va être tout autre. Si on a sur un collaborateur qu'on recrute en full remote, en total télétravail, que son lieu de travail, c'est son domicile, et que parfois, il vient dans l'entreprise, il est envoyé en mission, en fait, dans un lieu qui n'est pas son lieu de travail, qui est l'entreprise. Dans ce cas-là, potentiellement, on pourra tomber dans la logique de frais professionnels. Mais ça sous-tend que son lieu de travail soit son domicile, ce qui peut entraîner d'autres problématiques d'un point de vue juridique, établissement secondaire, etc., sur lesquels il faut se poser avant de partir sur cette solution. Donc voilà un peu la ligne de conduite, à mon sens, sur cette logique. Je ne sais pas si vous avez une...
Oui, alors la convenance personnelle, alors quand vous recrutez une personne qui est éloignée géographiquement, pour échapper à la convenance personnelle, bon, c'est peut-être le fait que vous pouvez démontrer que l'intéressé, vous n'avez pas trouvé d'autres salariés sur la région. Et le fait qu'il ait des enfants en bas âge avec une épouse qui travaille sur sa région d'origine pour échapper à la convenance personnelle. Mais voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ouais.
Oui.
La notion d'abonnement,
oui.
On peut faire des heures là-dessus. Est-ce que la carte Liberté de la SNCF à 400 euros, là, c'est un abonnement ?
Non, c'est une carte de réduction qui permet d'acheter des tickets à l'unité. Okay. Il faut savoir que SNCF est très malin.
Ouais.
Ils sont en train de développer, ils sont en train de développer des offres qui s'appellent abonnements, mais qui sont en fait ne sont pas tout à fait des abonnements.
Thalys fait pareil pour le.
Exactement, mais c'est logique, hein. C'est-à-dire qu'en fait ils se mettent dans le champ, et en fait c'est une offre où on va acheter un nombre de crédits de transport et on paye à la fin du mois, et c'est marqué abonnement sur la facture, et donc du coup on rentre dans le champ. Et nous on a des employeurs, parce qu'au-delà de l'aspect URSSAF, il y a le problème de droit du travail, l'obligation de rembourser ce sujet-là. Est-ce que vraiment je dois supporter le frais d'un collaborateur qui part vivre à Marseille ? Et ça pose beaucoup de débats, ouais, tout à fait.
Parce que le Code du travail, il parle aussi bien d'abonnement pour un nombre de trajets illimité, mais il parle aussi d'abonnement pour nombre de trajets limité.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, qu'est-ce que c'est un abonnement à nombre de trajets
limité ? Je vous donne un exemple. Par exemple, on a des abonnements qui permettent de faire 4 voyages aller-retour par semaine entre Paris et Rouen. C'est ça, les abonnements limités. Et là-dessus, on a de la jurisprudence qui est très claire. Hein. Un ticket à l'unité, quand bien même il y a un prix réduit, ne rentre pas dans la notion d'abonnement.
Mais alors, pareil, toujours la SNCF, désolé, mais ils vendent des abonnements où il y a un reste à charge extrêmement faible, mais il y a quand même un reste à charge.
Pour oui, mais à chaque fois, il y a un ticket. Euros.
Et donc là, on rentre dans la logique, on quitte la logique de l'abonnement, on est sur du ticket à unitaire.
À mon sens, oui.
Même s'il y a un reste à charge que d'un euro.
Même s'il y a un reste à charge que d'un euro ou deux euros. Oui, c'est ce qu'ils appellent les frais de réservation, c'est ça ?
Exactement, tout à fait.
Oui. À mon sens, j'ai déjà eu l'occasion de me prononcer sur le sujet, mais je considère qu'on ne rentre pas strictement dans l'abonnement et que c'est touchy d'un point de vue juridique.
Mmh. Ok, d'accord.
Après, attention, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez être redressé ou pas. C'est juste que juridiquement, on est sur un sujet touchy. Et une remarque là-dessus, hein. Tout ce qu'on évoque là, on raisonne dans un monde post-Covid, avec un changement énorme des modes de travail. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire là sur la notion de convenance personnelle, etc., c'est une construction qu'on fait depuis 2 ans, où on essaye de voir comment réagissent les inspecteurs. Mais à mon sens, il faut être un petit peu audacieux sur le sujet. C'est-à-dire que on ne fait pas avancer les choses sans prendre de risques. Et si on souhaite à un moment donné dire, mais en fait, messieurs, dames de l'URSSAF, il faut bien comprendre qu'on est dans un monde où les personnes ne veulent plus habiter à côté de leur lieu de travail et qu'on est sur un mouvement sociologique de société et qu'en réalité, il va falloir accepter que la notion de frais professionnels rentre pour des collaborateurs qui, pour convenance personnelle, habitent loin parce que sinon, nous, on n'arrive plus à recruter. Eh bien, il va falloir peut-être prendre la charte de mobilité, modifier, trouver des éléments qui vont bien. On sait qu'on va se faire toper, on sait qu'on va avoir des contestations, on va faire monter la jurisprudence, et dans 5 ans, on aura des positions sur le sujet. Et on sait très bien qu'il y a des entreprises, c'est leur politique, elles se mettent en risque, elles le savent pertinemment. Là, ce que je viens de vous livrer, c'est la lecture pure à date où vous voulez prendre aucun risque. Mais on sait qu'il y a des entreprises qui n'acceptent pas cette lecture-là, parce que pour eux, ça ne va pas dans le bon sens du mouvement de la société. Pour d'autres, ça va dans le bon sens, parce qu'au contraire, c'est une mauvaise chose. Et je ne sais pas où on en sera dans 5 ans.
Et un salarié qui se fait prescrire par le médecin du travail le recours à l'avion plutôt qu'au train, parce que c'est plus rapide et donc c'est moins fatigant. Du coup, là, on tombe dans la logique de...
Il y a des médecins qui prescrivent ça.
Alors, on a des médecins audacieux et innovants. Là, du coup, le problème, c'est que, sauf à ma connaissance, il n'y a aucune compagnie aérienne qui propose un système d'abonnement.
De toute façon, l'avion, ça, le texte ne s'applique pas pour l'avion.
Pour l'avion.
Ah, pour l'avion, c'est exclu d'office.
Non, c'est que pour le train, les TER, métro.
C'est jamais...
L'avion, ça ne s'applique pas.
Bon,
s'applique
très bien. Pas. Et si on rembourse à 100% des billets unitaires d'avion, du coup, là, on prend un risque.
Ah bah là...
On assume un risque, là. Ah oui, d'accord, ok.
Moi, je trouve que ça se défend.
Ça se défend ?
Avec plaisir.
Sauf s'il est en déplacement professionnel en tant que tel et que c'est pour gagner du temps.
C'est du trajet domicile-travail, du coup.
Oh là !
Et le bilan carbone.
Et le bilan carbone, je vous l'épargne, évidemment.
Ah, l'horreur. Enfin, on a des avions qui vont moins consommer. Là, on est en train d'en construire un, il y aura moins 20%.
Oui. Il y a des petites questions, j'ai vu.
Oui, alors, il y a une question pour vous, ouais. Madame Rezunana. Est-ce qu'il y aura de la mansuétude de la part des URSSAF sur les années... Pardon. Est-ce qu'il y aura de la mansuétude de la part des URSSAF sur les années 2020 et 2021 parce que, alors, sur le sujet des frais et des avantages en nature, des frais pro et des avantages en nature, parce que pendant la pandémie, il était plus complexe d'assurer un suivi.
Non, là, non.
Voilà. C'est clair.
Je réponds non. Vous n'aurez pas plus de mensuétude. Il n'y a pas eu d'instruction sur le sujet.
Et après, on a un sujet sur la dématérialisation des tickets de métro et autres. Bah, sur comment fait-on
On paye un ticket avec...
pour le remboursement. Enfin, voilà. Pour les justificatifs, j'imagine.
Capture d'écran. Hein, moi, je vois que
capture d'écran.
Alors, pour finir un peu la journée, on va sur deux éléments qui, à mon sens, vont être source d'insécurité juridique importante pour les entreprises, le FMD et la PPV, donc le forfait mobilité durable et la prime de partage de la valeur. Deux dispositifs relativement récents. On commence par le forfait mobilité durable. Le forfait mobilité durable, c'est la possibilité de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour faire leur trajet domicile, lieu de travail, avec... des moyens de mobilité douce ou moins polluants. Mmh. Le montant du FMD, c'était 400, 500, maintenant 700 euros, d'accord, qui peut être versé aux collaborateurs. Alors, déjà, il faut bien distinguer deux choses, le FMD et le titre mobilité. Le titre mobilité, c'est vraiment des acteurs tiers qui délivrent ce titre mobilité avec un moyen de paiement. Là, on ne raisonne que forfait mobilité durable mis en place par l'entreprise. Comment c'est mis en place ? Par accord ou par décision unilatérale ? À qui ça bénéficie ? À l'ensemble des salariés de l'entreprise qui veulent faire leur trajet domicile lieu de travail avec des moyens de transport moins polluants. Première remarque ici, déjà, c'est qu'il y a une condition de formalisme. Si vous n'avez pas d'accord, pas de DUE, potentiellement, il y aura un redressement. La deuxième remarque, c'est l'ensemble des salariés. Et ça, quand je vois, moi, les pratiques des entreprises là-dessus, je me pose beaucoup de questions dans les 2-3 ans qui viennent sur la manière dont ça va être contrôlé par les URSSAF. Parce que quand on lit de manière... Une URSSAF, je pense que Mme Rezina, vous ne m'arrêterez pas là-dessus, elle, sa ligne de conduite, c'est la notion collectif, caractère collectif.
Caractère collectif.
C'est toujours été la même chose, épargne salariale, protection sociale, etc. Le FMD, quand on me dit l'ensemble des salariés, nous, en URSSAF, on raisonne toujours la même chose, caractère collectif. Question qu'on nous pose souvent, est-ce que je peux mettre une condition d'ancienneté dans mon FMD ? Est-ce que je peux moduler le montant de mon FMD en fonction de mes catégories de salariés ? Est-ce que je peux moduler le montant de mon FMD en fonction de la distance kilométrique entre le domicile et le lieu de travail ? La personne qui va vous répondre avec certitude « oui, il n'y a pas de souci » sans avoir interrogé l'URSSAF sur ce point, vous mentira. Parce que, en fait, à date, on n'a pas de recul. On n'a pas de jurisprudence, on n'a pas de contrôle URSSAF, ou très peu de contrôle URSSAF. Ouais. Et on n'a qu'une phrase dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale qui nous dit l'ensemble des salariés. Donc, de deux choses l'une. Soit on est sur une URSSAF, une position URSSAF extrêmement dure, et effectivement, aucune modulation, pas de critères d'ancienneté, pas de conditions entre les collaborateurs, et dans ce cas-là, beaucoup d'entreprises vont être en risque, ou alors on se prépare et on explique des raisons objectives qui viennent justifier la différence de traitement entre les collaborateurs. Par exemple, venir faire varier le montant du FMD en fonction de la distance kilométrique entre le domicile et le travail par tranche, ça me paraît cohérent, parce que la finalité de la mesure, c'est d'indemniser le trajet domicile de travail, et donc la variation du montant, si la distance est plus importante, me paraît logique. En revanche, aller exclure les CDD de moins de 6 mois, ça me paraît un peu plus touchy. Mmh. Et je vous rappelle que sur le FMD, il n'y a pas de modulation actuellement. Il n'y a pas d'élément où on vient de me dire on va moduler. Donc à mon sens, si on se fait toper, on se fait toper la totalité du FMD sur une année déterminée. Donc gros warning par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des remontées terrain
non,
là-dessus.
Pour l'instant, pas grand-chose hein, sur ce sujet.
Pas grand-chose sur ce sujet. Sur la mise en œuvre du forfait mobilité durable, il va falloir également démontrer que le collaborateur utilise un mode de mobilité douce, vélo, covoiturage, véhicule autopartage, etc. Heureusement, cette preuve, elle peut être récupérée simplement par une simple attestation. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il suffit de récupérer une attestation sur l'honneur de la part du collaborateur comme quoi il utilise bien le forfait mobilité durable pour ses modes de transport, et il y a une présomption d'utilisation conforme et donc d'exonération. Il faut juste bien recueillir cette attestation et l'avoir mentionnée dans son acte de formalisation. Sur le forfait mobilité durable, on va avoir donc ces fameux justificatifs. Si on n'a pas les attestations, il faut aller chercher la preuve que le collaborateur utilise bien le mode de transport en question au titre du forfait mobilité durable. Autant vous dire que personne ne le fait. C'est soit on a l'attestation, soit on n'a pas l'attestation, mais on ne va pas aller dire « démontre-moi que tu utilises bien ton vélo électrique pour faire ton transport domicile-lieu de travail. » Est-ce qu'il y a des questions sur le FMD ? Non ? Je pense qu'il y en aura plus dans 3 ans. Prime transport. Alors, c'est revenu au goût du jour, la prime transport. Face à l'augmentation du carburant, les pouvoirs publics, ils ont majoré un peu le montant de la prime transport. Et donc, on a plein d'entreprises qui ont fait de la prime transport. De la même manière, la prime transport, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec cette prime transport. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur des dispositifs exonérés de charges, l'exonération, c'est une tolérance textuelle. Il faut appliquer strictement le texte. Donc ici, idem. Est-ce que le texte prévoit une modulation ? La réponse est non. On peut à la limite moduler en fonction de la distance kilométrique, mais aller exclure certains salariés ou moduler en fonction de la typologie de contrat de travail est à notre sens extrêmement risqué sur cette prime transport. On vous a remis un petit tableau, je pense qu'il pourra vous être utile, parce qu'avec toutes les modifications de plafond entre le forfait mobilité durable, la prime transport, la prise en charge des transports en commun, le cumul de ces différents mécanismes avec les plafonds d'exonération qui ont varié tout au long de l'année 2022-2023, on vous a mis un plafond de synthèse de l'ensemble de ces éléments dans le support qu'on va pas développer ici. Rapidement, sur la déduction forfaitaire spécifique, peut-être Madame Rezuna, vous voulez y aller ?
Alors, sur la déduction forfaitaire spécifique, jusqu'à présent, il y avait pour certaines catégories de salariés, possibilité d'appliquer cette DFSS. Et on n'allait pas rechercher les mois où il pouvait ne pas y avoir utilisation conformément à son objet. Là, à un moment donné, dans le BOSS, ils nous disent que on doit s'efforcer de l'admettre uniquement pour les périodes où il y a utilisation, il y a possibilité de remboursement de frais professionnels, hein, uniquement quand le salarié expose des frais. Alors, on avait aussi une tolérance qui prévoyait que tout ce qui était pris en charge par l'employeur en cas d'application de la déduction forfaitaire spécifique, eh bien, pouvait ne pas être intégré dans l'assiette. À compter du 1er janvier 2023, malheureusement, ces tolérances ne sont plus applicables. Donc, Ça voudrait dire que toute prise en charge directe par l'employeur peut faire l'objet d'un redressement. Donc, attention sur ces problématiques. Il y a aussi la problématique du recueil du consentement. Bien, ça peut être aussi un motif de redressement, hein, le consentement du salarié. Donc, depuis 1er janvier 2023, attention, s'il y a des prises en charge directes de frais professionnels par l'employeur, par exemple une prise en charge de repas, ça peut se faire, hein, eh bien, il faut l'intégrer dans l'assiette et pratiquer l'abattement. Alors, vous allez avoir aussi une disparition progressive de ces déductions forfaitaires spécifiques. Alors, elles sont annoncées déjà depuis quelques années, hein, je dirais une vingtaine d'années. Et là, on commence à avoir des précisions. Hein. Je crois que, de mémoire, il y a 5 activités pour lesquelles cette déduction forfaitaire spécifique va progressivement disparaître. Vous avez les entreprises de nettoyage et de propreté, vous avez le bâtiment, les journalistes, les entreprises de transport, et puis il y en a une cinquième, je n'ai plus en tête.
L'aviation.
Donc, disparition. Alors, progressive, c'est-à-dire bon, un taux qui est à 10%, il va passer à 8%, etc. Hein. Donc, jusqu'à disparition, jusqu'aux années 2030, 32, 33. Alors, selon les secteurs d'activité, vous avez donc des dates butoirs qui ne sont pas les mêmes. Donc, attention sur ce point.
Oui, attention et aussi au recueil du consentement.
Je suis dans le mauvais micro. Qui avait été plus ou moins abandonné à un moment donné, qui revient...
Qui revient sur le devant de la scène, sur la déduction forfaitaire.
On l'avait aussi intégré, vous savez, avec le droit à l'erreur et dans le discernement.
Qui est un gros cadeau, hein, quand même... cette tolérance, parce que ça veut dire que les entreprises dans le champ de la tolérance pourront appliquer la DFS d'un côté et tous les frais professionnels de l'autre. Avec le débat, tous les frais professionnels ou uniquement ceux mentionnés dans l'arrêté 2002, pour l'instant, c'est pas clair, mais ça veut dire qu'il y aura un cumul assez fort pour ces entreprises pendant une période déterminée.